Effervescence.
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 Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission Effervescence consacrée à l'humour. L'humour, c'est une forme d'esprit qui souligne le côté comique, ridicule ou même absurde de certaines situations. Des formes d'humour, il en existe plein. Il y a l'ironie, le sarcasme, la parodie, la caricature et même l'autodérision et bien d'autres encore. En Angleterre, par exemple, c'est l'humour noir qui est très répandu. Il consiste à rire de situations graves ou même macabres. L'humour nous fait du bien et tout le monde est libre de se tenter sa chance dans l'art de faire rire. Même si ce n'est jamais simple, avec toutes les formes d'humour qui existent, chacun peut trouver celle qui lui correspond le mieux. Aujourd'hui, nous parlerons de l'humour à travers différentes chroniques réalisées par notre équipe. Et pour démarrer notre émission, nous allons commencer par Carlos qui va nous présenter sa chronique ciné. On t'écoute, Carlos.
Merci Marie. Alors oui, l'humour dans le cinéma prend différentes formes. Il y a l'humour sous forme de gestes, où on peut citer Louis de Funès pour sa danse dans Rabbi Jacob, ou pour ses célèbres gestes et grimaces. L'humour prend aussi la forme de dialogue, où chaque phrase est une pépite. On a par exemple les dialogues de Michel Audiard dans Les Tontons Flingueurs.
Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît.
Certaines des répliques de ces comédiens sont toujours aussi cultes aujourd'hui, comme le mythique C'est OK.
C'est
dans Les Visiteurs, avec Jean Reno et Christian Clavier, qui a réuni près de 14 millions d'entrées au cinéma. On peut aussi retrouver de l'humour noir, comme avec Le Dîner de cons.
Le blanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom.
Avec Thierry Lhermitte et Jacques Villeray, où des amis invitent des cons à dîner, mais où ça tourne mal. Hélas, certains de ces films vieillissent mal, avec par exemple Le Père Noël est une ordure, avec Gérard Jugnot et Marie-Anne Chazelle, qui contient des thèmes sensibles, comme l'abus d'alcool ou le suicide, ainsi qu'un humour potage daté. On peut aussi se demander jusqu'où aller pour faire rire en regardant par exemple Les 11 commandements avec Vincent Desagna et Michael Youn, où ils vont par exemple inonder la maison d'un particulier et se mettre en danger en faisant du roller sous somnifère. Aujourd'hui, on peut retrouver un humour engagé dans des films avec Bienvenue chez les Ch'tis en 2008 avec Danny Boone et Kad Merad, qui est le premier film français du box-office avec 20,5 millions d'entrées. Il dénonce les clichés sur les gens du nord de la France.
Les chimies, tout le monde y parle chimie. Hein. Il y en a même qui parlent flamand, les chimies. Ailleurs, les flammes, c'est assez le matin de ça.
Ou plus récemment, un petit truc en plus en 2024 qui compte 10,8 millions d'entrées avec l'humoriste Artus et des acteurs trisomiques. C'est un film qui dénonce les clichés et les stéréotypes sur les handicapés.
C'est une bonne situation, ça, Scrib.
Mais vous savez, moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Merci, Carlos, de nous avoir présenté ta chronique. Je vais maintenant vous parler de l'humour sous un angle psychologique. Alors, je suis élève de terminale et passionnée par la psychologie. Alors, c'est parti. Donc, à travers l'humour, nous cherchons à faire rire les autres. Le rire, c'est une véritable cascade corporelle, ou autrement dit, une décharge physiologique. En effet, elle va accélérer le rythme cardiaque, provoquer des spasmes musculaires et va activer les zones du plaisir, bien connues qui sont la dopamine et l'endorphine. Et donc, en rigolant, aussi, notre taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, va diminuer. On va donc se sentir plus léger, plus détendu, et c'est pour ça que le rire nous fait autant de bien. À travers ma rubrique, je vais essayer de vous faire comprendre ce que le rire peut dire de nous. On l'associe souvent à la bonne humeur, mais en vérité, il peut être un outil bien plus complexe. À la question « peut-on rire de tout ?», il est évident que la réponse est non. On ne peut pas rire de tout et avec tout le monde. Il y a évidemment des contextes où l'humour n'est pas adapté, certaines blagues à éviter selon les situations, parce que l'humour, c'est aussi une forme de connexion. Il repose sur une complicité, et des références communes et une certaine connaissance de l'autre. On ne peut donc pas attendre de personnes qui ne nous connaissent pas ou peu qu'elles comprennent notre humour. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de vue que lorsque l'on fait de l'humour, on ne doit pas vexer, mettre mal à l'aise qui que ce soit. Il est préférable donc de garder les blagues risquées pour ses amis proches et éviter de mettre dans l'embarras certaines personnes qui n'auront pas le cœur à rire des mêmes choses que vous. Chacun a son propre rapport au rire. Certains rient beaucoup, d'autres très peu. Parfois, ça peut en dire long sur nous. D'ordinaire, on pourrait se dire que les gens qui rigolent le plus sont les plus heureux. Et c'est d'ailleurs souvent le cas. Mais rire trop peut s'avérer être un problème dans certaines circonstances. Lorsque le contexte ne s'y prête pas, par exemple. Dans des situations sérieuses, le rire est souvent mal perçu. Même si parfois, rire de manière excessive peut être un moyen... Et parfois, le rire de manière excessive peut être un moyen de cacher ce que l'on ressent vraiment. Derrière un sourire ou un fou rire permanent, il peut aussi y avoir du stress, de l'anxiété, et ça peut être un mécanisme pour se protéger. À l'inverse, ne pas rire beaucoup, voire pas du tout, peut être aussi un signe de mal-être. C'est souvent le cas lors de périodes compliquées, de fatigue émotionnelle, et ça peut arriver à tout le monde après un malheureux événement, par exemple. Aussi, il ne faut pas oublier que tout le monde n'a pas les mêmes capacités pour percevoir l'humour. Les autistes, par exemple, ont plus de difficultés à percevoir le second degré ou l'ironie, qu'ils prennent souvent au pied de la lettre. Il faut donc faire attention. Ensuite, on entend de plus en plus parler des thérapies par le rire et de leurs bienfaits. Il faut d'abord préciser qu'il ne s'agit pas de thérapie médicale officielle, mais de pratiques de bien-être complémentaires. L'une des plus connues est le yoga du rire. Inventé par le docteur Madan Kataria il y a environ 60 ans, c'est une méthode qui consiste à enchaîner des rires volontaires, souvent associés à des exercices de respiration et d'étirement. On peut la pratiquer seule ou en groupe, et elle se développe aujourd'hui un peu partout dans le monde. Les nombreuses recherches sur le sujet montrent que le rire peut réellement aider à se sentir mieux. Il favorise un état d'esprit plus positif. Ainsi, même sans rejoindre un club de yoga du rire, prenons tout simplement conscience que rire un peu plus chaque jour ne pourra qu'améliorer notre santé mentale et physique et nous faire passer des journées plus agréables. Ainsi, l'humour, il a une importance fondamentale dans la vie. Il nous fait du bien, il nous permet de rire, ce qui diminue le stress et renforce le bien-être. Grâce à lui, on relativise, on se sent apaisé, mais il est aussi fédérateur puisqu'il rassemble les gens et favorise les liens sociaux. Donc en bref, l'humour améliore notre santé mentale.
Merci Marie.
Maintenant, écoutons à présent Vitaly qui va nous parler de l'humour sur les réseaux sociaux.
De nos jours, l'humour est de plus en plus présent dans notre société. Effectivement, grâce aux différents réseaux sociaux comme TikTok, Instagram ou même X, le contenu vidéoludique humoristique est devenu omniprésent. Souvent, c'est en bien, comme des influenceurs tels que Sushi Nihilist qui déconstruit des théories complotistes, ou Le Corbe racontant des anecdotes sur sa vie avec un ton humoristique, et bien d'autres. Mais des fois, ça part en catastrophe. Vous saviez en entendre parler ? Les brain rot, la mode du moment, devient une addiction pour les plus jeunes. Mais commençons par l'expliquer. Arrivé sur TikTok en avril 2025, avec des noms tels que Bombardier le crocodilo, un crocodile bombardier, ou Trailer au tralala, un requin avec des chaussures, ces contenus générés par l'intelligence artificielle, au départ humoristique, peuvent contenir des propos racistes ou antisémites en italien au fond des vidéos à caractère piégeur. Ce genre de contenu a explosé sur la plateforme, atteignant des millions de vues dans le monde entier, faisant alors croître leur popularité. Ainsi, les jeunes enfants deviennent complètement addicts à ce type de contenu qui s'est développé avec des jeux tels que Stila Brain Rot, un jeu sur Roblox, une plateforme permettant à tout le monde de publier son propre jeu. Atteignant le million de joueurs connectés simultanément, un record mondial proposant des microtransactions pour avancer plus vite, insistant les plus jeunes à y mettre de l'argent. En conclusion, le contenu brain rot utilise l'humour comme prétexte pour passer des contenus haineux. Il n'est pas une bonne chose pour les réseaux, car il sert principalement à se faire de l'argent, ce qui empiète les créateurs passionnés, cherchant juste à faire rire des gens qui en ont besoin.
Merci beaucoup Vitaly pour ces précisions par rapport à l'humour dans les réseaux sociaux. Nous allons passer à présent au coup de cœur d'Olivier. Nous t'écoutons.
Oui, merci Marie. Mon coup de cœur du jour est pour un livre de la philosophe Olivia Gazalet, qui s'intitule « Le paradoxe du rire », le sous-titre étant « Et si ce n'était pas toujours drôle ». L'autrice, après avoir écrit des livres sur le mythe de la virilité, l'infériorisation et la domestication des femmes, s'intéresse au rire et à l'humour. Dans cet ouvrage érudit, mais accessible à toutes et tous, la philosophe s'interroge sur ce qu'est le rire, ses fonctions à travers l'histoire, le rire et les religions, et se pose enfin la question classique qui a été posée tout à l'heure sur le fait de pouvoir ou non rire de tout. À cet égard, elle propose de définir à la fin de son livre ce qu'elle appelle un pacte humoristique, car l'humour, écrit-elle, est une relation à l'autre. Olivia Gazalet considère que pour que la relation d'humour s'établisse entre les protagonistes, il faut que soit tacitement conclu ce fameux pacte humoristique. Dans son esprit, il ne s'agit pas forcément de se censurer, mais de réfléchir à l'énonciation, le contexte, l'état d'esprit, le premier ou le second degré qui s'exprime, avec qui et qui est ciblé. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre qui aborde le rire sous les angles historiques, sociologiques et politiques. Elle convoque des penseurs, des auteurs, comiques et des humoristes, d'Aristophane à Blanche Gardin, en passant par Rabelais et Oscar Wilde. Je vous recommande donc la lecture du « Paradoxe du rire » d'Olivia Gazalet, paru aux éditions Pocket en 2024, un livre sérieux et léger sur l'humour.
Merci Olivier. À présent, écoutons Goulven pour sa chronique philosophique. Nous t'écoutons.
Merci Marie. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter trois sous-genres de l'humour, l'ironie, la satire et le comique. Pour cela, je suis allé à la rencontre de M. Lagarde, professeur en philosophie au lycée Valin. En premier, je lui ai demandé qu'est-ce qui était, selon lui, l'humour.
Est-ce que l'humour est un concept philosophique ? Oui, l'humour peut être un concept philosophique. si on arrive à le construire correctement. Les concepts philosophiques, c'est des choses qui se construisent par des questionnements, par des réflexions. C'est pas juste des mots, c'est des mots auxquels on va ajouter une dimension de problème, en fait, tout simplement. Donc l'humour peut complètement être un concept philosophique si on arrive à voir quels sont les problèmes qu'il contient. Et donc, dans sa définition, dans son exercice, parce que l'humour, c'est difficile à manier, c'est un exercice subtil, et c'est là que les problèmes peuvent tout de suite apparaître philosophiquement autour du mécanisme même de l'humour. Donc aucun problème pour en faire un concept philosophique.
Concernant l'ironie, je me suis appuyé sur un livre de Jacques Vouherès intitulé « Le philosophe et le réel », dans lequel il s'entretient avec le philosophe Jean-Jacques Rosat. Tout d'abord, il me semble important d'expliquer une notion importante aux yeux du philosophe dans cette partie, celle de rationalisme. Le rationalisme est donc une doctrine qui accorde à la raison le pouvoir d'atteindre la vérité. Selon lui, il n'y a pas de rationalisme sans ironie, car l'ironie permet la remise en question de raisonnements qui nous paraissent vrais, permet la mise en lumière de paradoxes complexes et nous incite à penser plus ouvertement, sans biais personnel ni cadre social particulier. De plus, il pense que le rationalisme satirique et ironique est différent d'une variété spécifique du rationalisme. Toujours selon le philosophe, l'usage de la satire permet d'élargir le champ de vision et multiplier les points de vue. Le philosophe pense que le meilleur satiriste est Karl Kraus, écrivain, journaliste et dramaturge autrichien.
Et moi, j'ai l'impression qu'il y a surtout des sous-genres dans l'utilisation qu'on peut faire de l'humour. L'ironie constitue un des sous-genres. Alors, c'est un sous-genre très, très utilisable en philosophie, très intéressant à utiliser, et en rhétorique. Également, ça fait partie des choses qu'on étudie dans la philosophie. Ça fait partie des sous-genres qu'on affectionne particulièrement parce qu'ils peuvent être étudiés dans le détail et parce que l'ironie est un registre très riche.
Ensuite, selon Henri Bergson dans son livre Le Rire, il existe plusieurs types de comiques. Il faut savoir que le comique est en général quelque chose de vivant qui a des caractéristiques communes à tous ces types, comme le fait qu'ils résident dans la ressemblance de quelque chose à l'homme, la marque que l'on y met et son usage. De plus, le comique ne peut se développer qu'en présence d'un groupe de personnes. Par exemple, on dirait d'une personne distraite qu'elle est comique, car le plus souvent, les gens rient de la maladresse. Selon Bergson, il existe également un comique de forme. Pour démontrer, il fait un parallèle avec la laideur et la beauté. Par exemple, le comique d'un visage réside dans le fait qu'il donne que ce qu'il a à donner, ce qui le rend ridicule et comique. Ce type de comique réside dans la représentation des mécanismes de la vie. De plus, chaque cause a sa conséquence. Celle du comique se divise en plusieurs effets. Il y en a des principaux, puis d'autres qui s'en déduisent. En réalité, cela ressemblerait à une espèce de carte mentale où tous les effets sont donnés en cercle. Si vous voulez en savoir plus sur ces trois sous-genres, nous pouvons vous conseiller d'aller lire les œuvres que je vous ai citées.
Merci beaucoup Goulven. Tout de suite, le coup de cœur humoristique de Lucas.
Oui, merci Marie. Alors, l'humour, c'est aussi partager des moments de joie que seuls certains humoristes peuvent nous faire ressentir. Je vais justement vous parler de deux stand-uppers qui m'ont particulièrement marqué par leur créativité et surtout leur humour. Le premier s'appelle Elliot Diol. Certains le connaissent sûrement car il était présent lors de la première saison de Comedy Class, produit par Eric et Ramzy. Il en était le finaliste et même s'il n'a pas gagné, c'est cette émission qui l'a fait connaître. Il a ensuite fait plusieurs sketchs au Jamel Comedy Club après avoir rejoint la troupe. Sa créativité et son imagination en impro sont des atouts qu'il a pu mettre en avant avec son spectacle « C'est quoi la suite ?» qu'il a présenté dans 11 villes, dont Bruxelles, Lille et Marseille. La deuxième stand-upeuse s'appelle Sarah Lélé. D'origine camerounaise, elle est née et vit en Belgique. Elle a commencé le stand-up dans des petits comedy clubs belges, dont le Petit King à Bruxelles, et en parallèle, elle faisait des études en droit et sciences politiques. Elle s'est rapidement démarquée grâce à un humour engagé, mêlant autodérision et observations sociales, notamment autour de l'identité, de la double culture et du racisme. Son spectacle « La mauvaise éducation » connaît un vrai succès en Belgique et en France, ce qui lui permet de se produire sur de nombreuses scènes francophones. En 2025, elle reçoit le trophée Auguste dans la catégorie « Révélation », confirmant son statut d'artiste montante du stand-up francophone.
Merci Luca pour ces précisions sur le métier de stand-upper. Tout de suite, nous allons écouter la chronique littérature de Luce.
Bonjour, maintenant je vais vous présenter deux livres humoristiques qui traitent différemment l'humour. Tout d'abord, une BD appelée « Faut pas prendre les cons pour des gens », écrite par Emmanuel Rezé et parue aux éditions Fluide Glacial. La BD se déroule en plusieurs gags d'une page mettant en scène toutes sortes de clichés de la société. Autant la pauvreté que les stéréotypes de genre, en passant par l'obsolescence programmée ou encore le 7e continent. Le côté humoristique est justement le fait de prendre des clichés déjà existants que l'on voit tous les jours pour les amplifier jusqu'à un niveau auquel on ne s'attend pas. Je vais ensuite vous parler d'un manga écrit par Kiyohiko Azuma et paru aux éditions Kurokawa. Il traite d'un humour enfantin totalement différent mais qui fait tout autant rire. Il est intitulé Yotsuba. Il est aussi le nom de la petite fille dont parle ce manga. Elle a 4 couettes et les cheveux verts et vit avec son père un peu de 7 ans l'air. On suit sa vie, ses rencontres, ses journées à la piscine, chez ses voisines ou encore à la mer. Ce manga, tout simple, avec des décors très détaillés, prend le point de vue d'une enfant et devient agréable et amusant. L'impulsivité de Yotsuba la rend drôle, tout comme le fait qu'elle dise les choses comme elle le pense.
Merci beaucoup à toi, Luce. Écoutons maintenant l'interview d'une stand-upeuse professionnelle qui se produit ce mois-ci à La Rochelle.
Effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer Lala Sania qui se produit le 23 janvier à la Comédie La Rochelle. N'hésitez pas à aller la voir.
Nous t'écoutons.
Bonjour Lala Sania.
Bonjour.
Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Comment est-ce que vous êtes devenue stand-upeuse?
Alors, un peu par hasard, à vrai dire, j'ai fait du théâtre quand même pendant quelques années, mais plus en loisir. Puis, je suis devenue professeure des écoles et j'ai vécu pas mal d'aventures très drôles en maternelle. Oui. Et j'ai eu un peu envie de raconter ça sur scène et je me suis lancée au départ un peu pour faire rire mes amis, mon entourage. Et finalement, je me suis professionnalisée dans le stand-up et maintenant, c'est mon métier.
D'accord. Et donc, quelles ont été les difficultés principales pour devenir stand-upeuse ?
Alors, les difficultés principales, c'était de faire les deux en même temps, quoi, d'être prof et stand-upeuse pour le rythme, le sommeil et aussi trouver le temps d'écrire, trouver le temps de mener cette double vie. C'était ça le principal obstacle. Mais sinon, une fois que j'ai vraiment sacrifié mon métier de prof pour faire que de la scène, ça a été plus simple.
Oui, ça devait être un sacré challenge de faire les deux en même temps, effectivement.
Ouais, pas évident.
Oui. Comment est-ce que vous définiriez le métier d'humoriste ? C'est une question difficile.
Ah ouais, c'est pas évident.
Oui.
Je dirais que on est des personnes qui sont là pour divertir les gens, leur sortir du quotidien et aussi peut-être essayer de faire passer des messages, pas nécessairement à chaque fois, mais de temps en temps, essayer aussi par le biais de l'humour de dédramatiser certaines situations ou de faire prendre conscience à des personnes que même dans des situations chaotiques, on peut trouver quelque chose d'absurde et de risible.
Et alors on se demandait justement, est-ce que c'est drôle de faire rire les autres ?
C'est drôle de faire rire les autres, c'est drôle de faire rire les autres, c'est drôle de rire avec les autres.
Et comment est-ce qu'un spectacle se prépare ?
Alors il n'y a pas une seule méthode, je sais ouais. que... Avec les collègues, on n'a pas forcément la même procédure. Personnellement, j'écris mes sketchs toujours en partant d'histoires que j'ai réellement vécues. J'ai un peu de mal, moi, avec des gens qui inventent complètement des anecdotes farfelues. Moi, je préfère partir d'un vécu et puis les tirer, et des fois un peu exagérer ou coupler avec d'autres histoires pour en faire qu'une seule. Et au fur et à mesure, toutes ces petites histoires, toutes ces petites anecdotes, je les ai collées et j'en ai fait un spectacle d'une heure, quoi.
D'après vous, est-ce qu'on peut rire de tout ?
Alors, ça aussi, c'est compliqué parce que quand on dit rire de tout, on ne sait pas forcément où est la limite. Je pense qu'il n'y a pas de sujet interdit, mais je pense que parfois... Faut vraiment maîtriser l'art et la manière et des fois, il y a des sujets qui sont hyper sensibles à un moment donné ou à un instant T, où il faut savoir aussi respecter la sensibilité des autres et surtout ne pas rire aux dépens des gens et ne pas rire en se moquant des gens, quoi. Je pense que c'est surtout ça, la limite.
Et est-ce que vous, vous vous êtes déjà auto-censuré ?
Je me suis, oui, plus ou moins. Après, j'ai pas de sujet trop polémique, mais c'est vrai que parfois, je me dis, bon, j'ai pas encore j'ai pas encore trouvé la manière adéquate pour faire passer tel message sans froisser personne. Donc, quand je vois qu'il y a des blagues qui peuvent irriter les gens, bah, je préfère ne plus les faire.
Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre prochain spectacle ?
Alors, le prochain spectacle, bah, ce sera peut-être la suite un peu de celui-ci. Hein. Là, dans le spectacle actuel, je parle beaucoup de ma vie de prof. Et à la fin, j'explique que voilà, maintenant, c'est fini, mais je rentre pas trop dans le détail. Donc, le prochain spectacle, je pense que ça parlera plus de pourquoi j'ai quitté l'école et aussi bah, autour de la santé mentale et du burn-out et expliquer un peu les coulisses, entre guillemets, de ce métier qui peut être beau, mais qui peut être parfois très difficile.
Oui, on imagine. En tout cas, merci beaucoup à vous, la Lasagna, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, bah nous, on vous retrouvera, on l'espère, le 23 janvier à la Comédie La Rochelle pour votre spectacle La Grande Classe.
Avec plaisir, merci à vous.
Vous venez donc d'écouter notre interview de La Lasagna, réalisée par Laurane. On la remercie d'être allée à sa rencontre. Et c'était le premier numéro d'Effervescence, conçu et animé par le club radio du lycée Valin. On espère qu'il vous aura plu. Et merci à tous ceux qui nous ont aidés à concevoir notre émission, notamment notre technicien Timéo. Merci à lui. Et on se dit à la prochaine fois pour notre nouvelle émission qui sera sur les stéréotypes de genre. À la prochaine!
Effervescence.